conférence porte sur la diversité en islam, c'est-à-dire que plus précisément, je vais parler de ce qui fait la spécificité des courants sunnites et chiites, des courants rationalistes et des courants mystiques, qui sont, à mon avis, les quatre branchements des options intellectuelles et spirituelles de la communauté. Il y a un point sur lequel il faut insister, c'est que les doctrines musulmanes ne sont compréhensibles que dans un cadre historique. C'est-à-dire un peu la même chose dans la tradition juive et chrétienne. La Bible raconte une histoire, d'un peuple. L'Évangile raconte l'histoire d'un homme. Et donc, en islam, c'est la même chose. On ne peut pas simplement lire des textes. Il est impératif de bien avoir en tête le cadre de la naissance même de la communauté, de l'apparition de ce livre qui est le Coran. Alors, je sais que bon, vous avez une conférence donnée par M. Marlène Belcher qui vous a parlé des débuts de l'islam. Donc, je pense que ça va me permettre d'aller très vite pour rappeler les choses. Donc, vous savez que l'islam est né en Arabie au début du 7e siècle. Le prophète Mohammed était originaire de la ville de La Mecque. Et l'Arabie, la prêché en Arabie, dans une région qui était sans doute restée en partie païenne, en tout cas à La Mecque, et qui était complètement imprégnée du message biblique, du message juif et chrétien. C'est-à-dire que quand le Coran s'adresse à son public, que ce soit à La Mecque d'abord ou plus tard à Médine, il dit « Souvenez-vous de l'histoire d'Abraham, souvenez-vous de Moïse, de Jésus. » C'est-à-dire qu'il s'adresse à un public qui connaît bien l'histoire. Souvent, il n'est même pas nécessaire de raconter les détails. Donc, il s'adresse à un public qui peut être juif, chrétien ou païen, mais imprégné en tout cas de tout un patrimoine biblique. À l'époque, donc au début, enfin au 6e siècle et au 7e siècle, on peut dire que tous les pourtours de la péninsule arabique sont déjà largement christianisés et judaïsés. Et les Arabes du Nord, hein, parce qu'il y a actuellement la Jordanie, l'Irak, étaient chrétiens, et largement au Yémen aussi, avec une très forte présence juive. À l'époque, le judaïsme, on pouvait se convertir au judaïsme très facilement, le judaïsme est une religion prosélyte. Il y avait donc de nombreuses tribus arabes de religion juive, éventuellement d'ascendance juive, mais aussi par conversion. L'impact de la religion juive était tel qu'au 6e siècle, il y a eu un roi du Yémen qui lui-même était devenu juif et a voulu imposer le judaïsme comme religion officielle de son royaume. Ce qui a échoué, ça montre en tout cas l'impact de ces deux religions. Donc, Mohammed est issu de la Mecque, alors je vais bien sûr extrêmement vite parce que vous connaissez déjà l'essentiel. Les premières révélations sont datées, au calendrier grégorien, de l'an 610. Première révélation. Et de 610 à 622, Mohammed prêche son message à La Mecque dans sa ville. Globalement, ce message reçoit l'assentiment d'une petite communauté de convertis, mais il est rejeté par la majorité des contributeurs de Mohammed, qui, pour des raisons diverses, n'acceptent pas le message à la fois religieusement à cause du monothéisme et de la croyance dans la résurrection. Visiblement, les Mécois à l'époque trouvaient insensé l'idée que les corps puissent renaître après leur mort. Et aussi pour des raisons sociales, parce que bien évidemment, il y avait des chefs politiques qui voyaient bien que quelqu'un qui se proclamait prophète aurait ipso facto une autorité politique et que cela leur semblait évidemment inacceptable. Donc, la petite communauté des musulmans, après avoir subi pas mal de vexations, de boycotts, de persécutions, émigre en 622 dans la ville de Médine, qui se trouve à 350 km de La Mecque, et qui était une oasis où Mohammed a été accepté, non seulement accueilli, mais accepté comme arbitre, comme peut-on dire, des conflits intertribaux. En Arabie, il faut se souvenir qu'il n'y avait pas d'État centralisé, il n'y avait pas d'État, donc il n'y avait pas de police, donc il n'y avait pas de loi, de loi étatique. Et donc, quand il y avait un délit, un meurtre, quelque chose, ben la tribu de la victime se venger. Et cette vengeance attirait à son tour une vengeance. Donc le tissu tribal était traversé par des séries de vendettas qui parfois aboutissaient à des situations de guerre civile permanente, comme ça a été le cas à Médine. En 622, Muhammad donc, arrive à Médine avec un petit groupe de musulmans et là établit une sorte de pacte de la ville qui permet de rétablir la paix civile. De 622 à 632, Muhammad va réorganiser la ville de Médine, ce qui aboutira à l'islamiser. D'ailleurs, les trois tribus juives qui habitaient à Médine suite à des conflits sont éliminées. Et Muhammad organise dès les premières années la guerre contre la Mecque, contre la cité polythéiste de la Mecque. Après toute une série de batailles, parfois des victoires, parfois des contre-coups, finalement, la Mecque épuisée finit par se rendre. Et en 630, le prophète Muhammad rentre à la Mecque, dont la population se convertit à l'islam. Donc 630, le pays est pacifié et le prophète meurt en 632 en ayant reçu la légende de la plus grande partie de la péninsule arabique. Voilà, donc c'est le cadre, très rapidement dit, de la principale date qu'il faut retenir. 622, c'est ce qu'on appelle l'Hégire, hein, l'immigration de Mohammed de la Mecque vers Médine, et c'est l'an 01 du calendrier musulman. La question qui va se poser, ce qui concerne la diversité de l'islam, c'est que les conflits ont commencé à éclater dès la mort du prophète en 632. Le prophète meurt de façon assez inopinée, semble-t-il. On ne s'y attendait pas, bien qu'il y ait eu un âge déjà raisonnable. Et il laisse sans laisser de successeur désigné ou d'instruction quant à sa succession. Les raisons spécialiste en discute beaucoup, mais en tout cas, il n'y avait pas de procédure, par exemple, familiale, il n'y avait pas d'enfant mâle, de toute façon, mais apparemment, rien n'avait été, il n'y avait pas de procédure prévue, du moins d'après l'avis des musulmans sunnites. Les chiites affirment au contraire, il y avait bel et bien une succession de prévus. Quoi qu'il en soit, donc, non, il y a un tableau, mais je pense que vous avez dû le voir avec M. Bencher. Quoi qu'il en soit, les événements qui ont eu lieu réellement ont été les suivants. Il y avait une très forte tension, disons, à Médine. Médine était restée la capitale de l'État musulman. Une très forte tension entre un groupe de responsables, disons, plutôt d'origine mécoise, et qui avaient acquis des privilèges importants dans l'État, et qui se sont regroupés autour de deux personnages principaux, Abou Bakr, qui a été le premier successeur, le premier calife, le premier donc, successeur de politique en fait, Mohammed, qui a régné de 632 à 634.
Ça fait
comment ? Abou Bakr. Si vous voulez, d'ailleurs, je pourrais vous envoyer mon exposé. Donc Abou Bakr et Omar, qui sera le deuxième calife, qui va régner de 634 à 644. Omar, le véritable fondateur de l'empire islamique, c'est lui qui va lancer les conquêtes, conquérir et permettre aux armes musulmanes de conquérir la Syrie, l'Égypte, la Mésopotamie, une bonne partie de l'Iran. Donc des conquêtes fulgurantes qui vont asseoir de façon définitive la stabilité de l'État musulman, et cela malgré pas mal de dissensions internes. En effet, il y avait un parti adverse. Ça, c'était le parti mécois, disons, qui a pris le pouvoir en 632. Mohammed est mort. Rien n'était prévu, eh bien, Abou Bakr et Omar ont réuni une sorte de groupe de notables qui ont désigné Abou Bakr comme calife. Mais il y avait un groupe de mécontents qui étaient souvent, pas uniquement, composés de Médinois, mais qui s'étaient rangés sous la bannière de Rali. Rali était le cousin germain du prophète, et le gendre, parce qu'il avait épousé sa fille, son unique enfant, Fatima. Et disons, il formait un groupe de mécontents, de gens qui, d'abord, affirmaient que Ali, en tant que plus proche parent du prophète, c'est lui qui aurait dû succéder, non pas Abou Bakr, et qui, deuxièmement, étaient très mécontents parce que le partage du butin, butin énorme avec les conquêtes, était complètement inégalitaire et allait beaucoup trop en direction de ces familles mécoises qui, en fait, avaient collaboré, avaient, s'étaient opposées au prophète pendant longtemps, alors que les Médinois qui avaient accueilli le prophète très tôt n'avaient pas reçu une telle partie du butin. Quoi qu'il en soit, donc, c'est, Ali n'est pas choisi, c'est Abou Bakr qui est nommé d'abord, puis Omar. Omar meurt assassiné en 644, et là, ce n'est pas non plus Ali qui est choisi, c'est Osman qui sort d'un de aussi du clan, disons, du clan mécois, va régner de 644 à 656. Osman va continuer les conquêtes, avec succès d'ailleurs. Il va prendre quelques grandes décisions importantes pour la suite de la structuration de la communauté. C'est lui, par exemple, qui va décider l'établissement du corpus, mis par écrit, du corpus coranique. Mais il était, malgré tout, sa faiblesse était qu'il avait tendance à placer les gens de sa famille et ses amis au poste le plus important, au point que ça a fini par exaspérer une partie de l'armée, et une partie de l'armée est venue à Médine, qui était restée à la capitale, pour protester contre cet état de fait. Les choses se sont mal passées, je passe les détails. Quoi qu'il en soit, cette armée mutine, donc rebelle, va assassiner Osman dans un moment de colère, et à ce moment-là, Ali va être proclamé calife. Donc Ali est proclamé quatrième calife dans une ambiance assez trouble, parce que il est probable, enfin les historiens, évidemment, ils vont plus sur place, ne pensent pas qu'Ali ait été impliqué directement dans l'assassinat de Osman, mais enfin, il a bénéficié de cet environnement violent, et en tout cas, il n'a pas voulu punir les assassins. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, donc nous sommes en 656, l'Empire musulman entre dans une sorte de guerre civile, et c'est cette guerre civile qui a marqué le début de l'opposition entre sunnites et chiites. Les chiites désignent les partisans de leur ami, et petit à petit, donc, le parti majoritaire sera désigné, comme on va le voir, par le terme de sunnites. Alors, au final, les partisans de Ali sont battus. Ce sont les majoritaires, les Mécois, les Omeyyades, qui installeront leur califat à Damas. Et le parti de Ali sera rejeté dans l'opposition, dans une opposition qui dure jusqu'à nos jours. Mais qui va jamais cesser. Alors je passe sur les empires et tout ça pour finir vraiment à ce qui fait globalement à travers l'islam classique la diversité religieuse. L'islam est né dans le cadre d'un état, mais on ne se confond pas du tout avec un ordre étatique. Comme vous le savez, il n'y a pas non plus de cléricature, il n'y a pas d'instance religieuse en islam. Donc cette diversité religieuse s'est créée d'une façon extrêmement souple et progressive, au fil des siècles, sans brutalité, sans cassure. Enfin, il y a eu des conflits, bien sûr. Mais l'important par rapport, disons, à ce qui s'est passé dans l'histoire du christianisme, c'est qu'il n'y a pas, de grandes questions dogmatiques qui se soient posées. Il n'y a pas eu ces questions des concile pour fixer, mettons, la christologie. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que en islam, tout le monde est au fond d'accord sur un noyau de foi. Croire que Dieu est un et qu'il est unique, que Mohammed est le prophète, dans la résurrection, les anges, les prophètes. Donc tout ça, c'est un, il y a un petit nombre, disons, de points de foi qui sont acceptés par tous. Et puis au-delà, on peut croire, disons, en autre chose, mais il est inadapté de dire qu'il y a un islam orthodoxe, un islam hétérodoxe ou un islam schismatique. Je prends l'exemple du chiisme. Pour les sunnites, donc, qui évidemment se considèrent comme la foi eux-mêmes, comme la foi juste, considèrent que les chiites ont rajouté quelque chose à cette foi originelle. Donc, ce qu'on appelle une bid'a, une innovation. Mais les chiites demeurent néanmoins des musulmans, il n'y a pas de procédure d'excommunication, ils demeurent des musulmans et ils peuvent aller accomplir leur pèlerinage à la Mecque. Donc, c'est pour ça que cette opposition entre sunnites et chiites va traverser l'histoire, mais en même temps, il faut voir qu'il y a quand même une communauté musulmane qui n'est pas fracturé. Il n'y a pas plusieurs communautés musulmanes. Qu'est-ce qui fait l'unité de l'ensemble des courants musulmans dont on va parler? Ce qui fait l'unité, c'est d'abord et avant tout l'axialité du Coran, du fait coranique. Tous les musulmans sont d'accord pour considérer que le Coran, à savoir l'ensemble des révélations faites au prophète Mohammed entre 610 et 632, est son parole divine. Là, il n'y a pas de division là-dessus. Le Coran représente un volume d'à peu près 6230 versets, donc un volume assez important, dont vous connaissez le contenu, hein, donc il y a des exhortations à croire à la conversion, il y a des histoires du prophète, il y a des évocations de l'au-delà, il y a quelques prescriptions juridiques, mais peu nombreuses et peu précises. Donc ça, c'est le texte qui fait l'unité de la communauté. Toute la question, bien sûr, ce sera de savoir comment l'interpréter. Parce que le Coran, comme tout texte d'ailleurs, ne vaut que par l'interprétation. Il est tout à fait naïf de croire qu'on peut comprendre le Coran comme un autre texte tel qu'il est littéralement. Ça n'existe pas. N'importe quel être humain, lorsqu'il lit un texte, il l'interprète automatiquement à la seconde même en fonction de sa culture, de ses penchants, de sa sensibilité, etc. Donc, pour le Coran, a fortiori, cela a été le cas. Et on peut dire que toute l'histoire de la pensée musulmane est une histoire d'exégèse. Le courant majoritaire sunnite s'est constitué par opposition aux deux autres grandes options de l'islam. D'une part, le chiisme, et d'autre part, le mu'tazilisme, le rationalisme, plutôt. En effet, la question, c'est de savoir qui a le droit d'interpréter le Coran, qui va dire la vérité, qui en islam a le droit de dire voilà l'interprétation juste, voilà l'interprétation qui fait qu'il faut obéir à telle règle ou pas. Le Coran dit faites ceci, d'accord, mais est-ce un conseil, est-ce un ordre, c'est un conseil d'une croyante, une partie des croyants, il y a toute une science de l'interprétation qui s'est mise en place. Du point de vue des chiites, alors, les chiites affirment que dès le début, Muhammad avait nommé comme successeur son gendre et cousin Ali, que celui-ci avait été éliminé par un coup d'État, en quelque sorte, Abu Bakr al-Abbas, mais que non seulement il était désigné pour être son successeur, mais il était un être inspiré par Dieu. C'est lui qui devait continuer l'explicitation de la révélation. Personne, pour les chiites, n'a le droit d'interpréter le Coran avec autorité, si ce n'est Ali et ses successeurs qu'ils appellent les imams. Alors là, évidemment, parenthèse, le terme imam, bien sûr, dans le chiisme, n'a rien à voir avec ce qui vous a été expliqué tout à l'heure pour le sunnisme. Les imams, pour les chiites, sont des êtres divinement inspirés. Mohammed, pour les chiites, Mohammed est venu apporter le Coran et la loi extérieure, et les imams, Ali et ses successeurs, sont venus apporter le sens caché, le sens ésotérique de la loi. C'est pour ça que, d'une certaine manière, suivre les imams est si important. Pour eux, la foi dans les imams est un complément indispensable. C'est pour ça qu'ils ont trois charada. Ils disent je témoigne que Dieu est unique, le seul Dieu, je témoigne que Mohammed est son prophète, et je témoigne que Ali est l'ami de Dieu. Donc pour eux, si on ne se préfère pas aux imams, on mutile une partie de sa propre foi. Ils appellent les sunnites les muqassira, ceux qui mutilent, ceux qui se retranchent en quelque sorte de l'autorité des imams. Pour eux, donc Dieu qui est juste n'a pas pu laisser la communauté musulmane sans guide parfait, sans guide infaillible. C'est pour ça qu'il a nommé les imams. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le chiisme, c'est vraiment la religion de ces imams qui sont dépositaires d'une vérité certaine. Alors, ceci dit, les chiites, historiquement, ont été battus. Pourquoi ont-ils été battus? Pourquoi ont-ils été persécutés par la majorité? Eh bien, ils répondent, c'est parce que la vérité apportée par les imams est une vérité trop élevée, trop spirituelle, que la majorité ne peut pas comprendre, et que, d'autre part, Dieu a opposé à tout être de vérité un contraire. Et que, de la même façon que donc Moïse s'est opposé à Pharaon, eh bien, de la même façon que Abraham s'est opposé à la croix, de la même façon, Ali allait s'opposer à Abou et à Omar, et qu'il y a là donc un côté non seulement opposé au sunnisme, mais il considère même le sunnisme comme une entité de ténèbres, comme une entité maléfique, ce qui explique, vous comprenez, la harine qui oppose le conflit entre sunnites et chiites, parce qu'il y a quelque chose vraiment presque d'ontologique. Alors, les sunnites, ceux qui allaient devenir les sunnites, ont rejeté cette idée. Ils ont rejeté l'idée que Mohammed aurait nommé Ali et les successeurs de Ali comme détenteurs d'une vérité particulière. Politiquement, le chiisme était inacceptable parce que ça remonte simplement aussi à remettre en cause la légitimité des califes en place. Ça mettait en cause la légitimité des califes omeyyades d'abord, abbassides en plus, puisque ça revient à dire que tous les califes en place étaient des usurpateurs et des imposteurs. Et donc, il y a eu une majorité, indépendamment des questions politiques, une majorité qui a penché pour considérer ces thèses comme étant des thèses exagéré. Mais ça ne s'est pas créé, le sunnisme n'est pas apparu comme ça immédiatement. Il s'est créé au fil des siècles et il s'est créé notamment, on peut dire, à partir du 9e siècle. C'est là où la pensée sunnite s'est affirmée par rapport, d'abord par rapport au chiisme et ensuite par rapport à un second courant qui est un courant qu'on peut appeler rationaliste, mais qui est né très tôt. Ce qu'on oublie maintenant, on parle de courant nouveau penseur de l'islam, courant rationaliste en islam, c'est apparu très tôt. Le principal représentant en est l'école Mu'tazilite.
L'école, pardon.
Mu'tazilite, bon, je n'ai pas de tableau pour l'écrire. Cette école Mu'tazilite, qui est née au 8e siècle et surtout épanouie au 9e siècle, l'outil essentiel pour comprendre, pour interpréter la révélation ce n'est pas le recours aux imams infaillibles, c'est le recours à la raison. Pour eux, Dieu, qui est miséricordieux, a envoyé aux hommes un livre pour les guider, c'est le Coran, mais le Coran doit être, enfin le Coran est intégralement clair et rationnel. Et Dieu, qui est juste, a doté les êtres humains d'une faculté pour comprendre le Coran, qui est la faculté de la raison. Donc il y a cette idée-là que le premier outil, si on veut comprendre le texte sacré, c'est de pouvoir raisonner à son sujet. Ça ne veut pas dire qu'ils aient été des rationalistes au sens moderne du terme, c'était des musulmans qui acceptaient que le Coran était parole de Dieu, mais pour qui le premier critère était le raisonnement. Pour eux, donc, il fallait bien sûr, comme tous les musulmans, il fallait connaître l'arabe pour comprendre le Coran, pour bien voir quelle était la valeur sémantique de chacun des termes. Ils n'avaient pas tellement recours aux enseignements du prophète Mohammed pour la raison que si on interprète le Coran en disant on interprète le Coran avec un autre texte, qu'est-ce qui va permettre d'interpréter l'autre texte? Si on interprète le Coran par un hadith, qu'est-ce qui va permettre d'interpréter le hadith? Au fond, on retombe toujours sur la raison. C'est toujours la raison humaine qui tranche, il n'y a pas d'échappatoire à cela. La question de la lecture du Coran, cela vous a été dit tout à l'heure, l'interprétation du Coran est extrêmement délicate. Parce que le sens ne jaillit pas toujours. Mettons, il est dit, je prends un exemple facile, que Dieu a créé Adam avec ses deux mains. Il est dit que Dieu s'est assis sur un trône. Alors, le monde catholique disait qu'il est évident que Dieu n'a pas de mains. Donc, c'est un symbole, c'est une métaphore de la puissance divine. Dieu n'a pas de trône, simplement, c'est une métaphore de l'omniprésence divine. Il est dit dans le Coran que la colère de Dieu, ça va sur ceux qui ne croient pas, il est sur le mardou et Arnaïm, mais ceux sur qui la colère de Dieu, ça va. Mais les imams basiliques, comment est-ce que Dieu pourrait-il se mettre en colère? Dieu connaît tout, Dieu peut tout depuis l'origine. Donc comment pourrait-il être soumis à un sentiment aussi humain, aussi faible que la colère? Donc les Mu'tazilites disent tout ça c'est une manière purement rhétorique d'exprimer la volonté divine. Alors bien sûr, cette attitude a heurté la majorité qui est devenue sunnite pour qui le Coran est intégralement parole de Dieu. Et on voit le danger si les Mu'tazilites commencent à dire oui, mais ça, c'est une métaphore, ça c'est une image, ça c'est une manière de parler. Petit à petit, il y a une manière de désarticuler en quelque sorte le Coran de son propre sens littéral et de faire que c'est l'appréciation rationnelle de l'exégète qui va dicter le sens de la parole divine. La raison humaine va devenir l'arbitre en quelque sorte de la parole divine. Et d'une certaine manière, risque de la rendre inutile, puisque si c'est la raison qui décide de ce qui est de bon sens ou pas, à la limite, pourquoi aurait-on besoin d'une révélation? Donc il y a eu un débat qui a été extrêmement virulent. Comme on va le voir, pour la pensée sunnite, celle qui va prévaloir, la raison humaine n'est pas un critère sûr. Pour l'anthropologie représentée par le sunnisme, l'être humain n'est pas un être rationnel. L'être humain est un être passionnel, est un être pulsionnel, et il ne se sert de sa raison que pour en quelque sorte justifier ses passions. Mais il n'est pas possible de se fixer par rapport à la raison seule, et d'ailleurs, argumentent les théologiens sunnites, les théologiens et les philosophes ne sont pas d'accord entre eux. Pour le sunnisme classique, donc, livré à la seule raison, l'homme est, et il est complètement incapable, notamment de savoir comment accéder à son salut. En d'autres termes, dans l'exégèse sunnite, au fond, ce n'est pas la raison humaine qui doit éclairer le texte, c'est le texte divin qui doit éclairer la raison humaine qui est très faible. Et s'il y a des passages qu'on ne comprend pas, eh bien, il faut admettre qu'on ne comprend pas. S'il y a des passages qui paraissent contradictoires, ce n'est pas que Dieu ait dit des choses contradictoires, c'est que la raison humaine est incapable de juger, de comprendre. Pour prendre l'exemple, un des exemples qui a animé les débats théologiques au Moyen-Âge, le Coran affirme que Dieu est tout-puissant, que Dieu crée tout, y compris les actes des humains, que Dieu enverra en enfer les hommes, enfin guide qui il veut, il fait égard qui il veut, et donc il enverra en enfer au paradis qui il veut. Mais simultanément, le Coran affirme partout, du début à la fin, que l'homme est responsable de ses actes et il est invité à se repentir. Donc il y a deux choses qu'il faut croire. D'une part, la totale toute-puissance de Dieu, qui, pour reprendre un hadith, pourrait envoyer même un ange en enfer s'il le voulait. Et en même temps, la totale responsabilité de l'homme. Voilà, donc c'est une. Vous voyez que donc entre le montazilisme et le sunnisme, il y a eu deux visions de la personne humaine, deux visions de la morale humaine qui se sont affrontées. Cet affrontement a eu lieu surtout au cours du 9e siècle. Il y a eu un calife abbasside, le Mahmoud, qui était de tendance montazilite, qui a voulu imposer le montazilisme comme doctrine de l'État. Ça a marché pendant quelques dizaines d'années et finalement, au bout du compte, un de ses successeurs, le Tawakkel, vers les années 850, va rétablir, en quelque sorte, faire partir le dogme montazilite de la doctrine de l'État. Et on peut dire que c'est à ce moment-là le sunnisme qui va devenir le dogme principal de l'Empire musulman et il est resté tout au cours du Moyen-Âge. Le montazilisme, visiblement, qui a connu des grands penseurs très brillants, était une école d'intellectuels, mais le petit peuple de Bagdad et des grandes villes était profondément attaché à la lettre du Coran, à l'idée qu'il faut approcher, comprendre le Coran même de façon extrêmement littérale, et que on va revenir dessus. Donc, s'il est question du trône de Dieu, ben, c'est qu'il existe quelque part un trône de Dieu. Il n'y a rien dans le Coran qui ne soit vain. Il n'y a rien dans le Coran qui ne soit de la pure métaphore. Enfin, c'est ce qui pose énormément de questions à l'exégèse, mais c'est autre chose. Alors, bien sûr, on peut rêver, on peut se mettre à rêver en se disant mais qu'est-ce qui se serait passé si au 9e siècle, les montazilistes avaient réussi à gagner la bataille, le montazilisme avec tout ce que ça a comporté comme attirance pour la pensée grecque, pour assimilation de la science grecque et de la philosophie grecque. Il y a des historiens qui ont dit que la renaissance qui a eu lieu en Europe au XVIe siècle aurait pu avoir lieu à Bagdad au IXe siècle. Tout était là, tous les ingrédients étaient là. Bon, ça n'a pas eu lieu, on ne va pas faire de l'histoire fixée. Donc, le sunnisme. Les sunnites, ceux qui vont être appelés sunnites, ont développé cette idée que l'homme est un être passionnel. Ils ont repoussé les théologiens rationalistes comme ils ont repoussé les théologiens chiites. Mais enfin, il fallait quand même interpréter. On ne peut pas, il fallait quand même avoir des critères, pas seulement pour l'exégèse, mais surtout pour le droit, parce qu'il fallait quand même que les juges puissent avoir des manières d'interpréter les injonctions du Coran, et il fallait que les gouvernants gouvernent. Historiquement, ce qui a créé le pivot, le pilier même de la pensée sunnite, c'est que Dieu, il existe quand même un homme qui possède la science divine en intégralité et de façon infaillible, et c'est le prophète Mohammed. Bon. Contre les chiites, la théorie des imams, contre les mu'tazilites et la théorie de la raison humaine, ils ont dit le prophète Mohammed est un homme qui était garanti par Dieu contre l'erreur. Et que par conséquent, si une question se pose dans l'exégèse, si une question se pose dans l'élaboration du droit, il faut d'abord et avant tout recourir à la parole du prophète, à savoir le hadith. La grande référence, c'est la coutume du prophète, la manière d'agir du prophète, la sunna du prophète, d'où l'appellation de sunnite qui leur est restée. Ils s'appelaient eux-mêmes Ahl-Sunna wal-Jama'a, c'est-à-dire des groupes de la tradition, de la coutume du prophète et de la communauté. Parce qu'ils étaient très soucieux de conserver l'unité de la communauté musulmane, de ne pas créer des divisions. Donc toute la question va être de savoir qu'est-ce qu'a donc dit le prophète Mohammed qui n'a rien écrit de sa vie. Donc à partir de ces années-là, mais on est à peu près 150, 200, 300 ans après la vie du prophète Mohammed, on a commencé à mettre par écrit ce dont on se souvenait des paroles du prophète. Pour créer, pour colliger dans des grands recueils ce hadith, cette parole du prophète. Le hadith est absolument indispensable pour la compréhension de l'islam sunnite. D'ailleurs, ou de l'islam tout court, si vous ouvrez un Coran, vous voyez que le Coran en lui-même n'est pas compréhensible, n'est pas interprétable si on n'ajoute pas « Oui, mais tel moment, le prophète était dans telle situation, et à ce moment-là, il n'a répondu pas. » Donc, tout ce qu'on raconte comme histoire de la vie du prophète, dont je parlais au début, et tout ce que tous les hadiths permettent de compléter, d'ajuster, d'orienter l'exégèse. On peut donc dire que le hadith constitue le deuxième texte sacré en islam. Le hadith fonctionne jusqu'à nos jours comme un texte sacré. C'est fondamental. Il y a une série de penseurs modernistes actuellement, à partir des années 90, qu'on appelle les coranistes. Pour nous, être musulmans, c'est suivre le Coran seul. Hein, le Coran en kafar, c'est l'un des livres principaux. Et le hadith, ce sont des textes qui sont douteux, qui sont forgés, on s'en tient au Coran. Cette position donc, a fait l'objet d'un avis de l'université Al-Azhar, qui a convoqué les théologiens, les juristes à ce sujet-là. Et en 2010, ils ont émis un avis catégorique en disant l'islam, c'est de croire dans le Coran et la sunna qui est divinement inspirée. C'est-à-dire que les paroles du prophète sont considérées comme ayant une autorité divine, on ne peut pas scinder donc, les deux. Donc c'est un point absolument fondamental. Cette nécessité, jointe à une ferveur grandissante envers la personne du prophète, a conduit un grand nombre d'étudiants, de lettrés, au cours, principalement à partir du 9e siècle, à parcourir le monde musulman et à interroger toutes les personnes qui auraient pu avoir une mémoire, par transmission familiale, par transmission intellectuelle, de ce que le prophète aurait dit. Et il a plusieurs grands recueils qui ont été ainsi constitués, ainsi celui de Bukhari, je vous enverrai qui est mort en 1870, et de Mosley en 1875, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont été écrits à la même époque et après. Si on fait le compte, dans tous les recueils de hadith, dans le sunnisme, je ne parle pas des hadiths chiites, dans les hadiths sunnites, il y aura à peu près 1600 ou 800 000 hadiths. Donc c'est une somme absolument colossale de documents. Toutefois, ces hadiths ne se limitent pas à une simple compilation. En effet, il est apparu très tôt que certains de ces hadiths étaient de nature assez douteuse et qu'on présentait les hadiths sous forme de hadiths, des dires qui étaient inventés, qui n'étaient pas d'origine musulmane, pour des motifs tout à fait variés. Mais par exemple, à l'époque Riyad, quand les cafés de Californie étaient très, très contestés, il y a des hadiths qui disaient obéir au calife, c'est obéir à Dieu. C'est-à-dire, ce que ça entendait, c'est-à-dire obéissez au calife, même s'il est pervers, même s'il est injuste, même s'il est tyrannique, obéissez au calife, c'est parce que obéir au calife, c'est obéir à Dieu. Donc c'est un hadith qui a une portée politique évidente. Et donc, au 9e siècle, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas accepter comme ça, absolument sans distinction, tous les textes qui circulaient. Il y avait énormément de textes d'origine juive, d'origine chrétienne, Notre Père a circulé sous forme de livre. Donc il fallait trouver des critères qui permettent de discriminer entre ce qui était la parole du prophète et ce qui était formel. Le critère qui a été utilisé, c'est celui de la transmission. C'est-à-dire que les collecteurs de hadith, comme Bukhari, Muslim et tous les autres, lorsqu'ils notaient par écrit quelqu'un qui leur disait voilà le prophète a dit, etc., eh bien, ils demandaient oui, mais qui t'a transmis cette parole? Et cet homme, il a reçu cette parole de qui? Et le transmetteur a reçu cette parole de qui? C'est-à-dire qu'ils accompagnaient la parole du prophète, le hadith, par toute une chaîne de transmission qui, dans les cas idéaux, devrait relier la personne du lecteur à celle du prophète. Alors, bien entendu, ce n'était pas possible, parce qu'il y avait quand même deux siècles, trois siècles. Bon. Donc, il y a des hadiths qui étaient, dont la chaîne était incomplète. En plus, il y avait des hadiths dont la chaîne comprenait des noms qui n'étaient peu sûrs. On disait, oui, mais un tel, il était chiite, un tel, on dit qu'il était alcoolique. Donc, à chaque fois, ça crée des zones de méfiance. Et donc, tous les hadiths n'ont pas été recueillis comme également de même valeur. La science des hadiths est éminemment complexe, mais pour résumer de façon assez grossière, on peut dire que la tradition islamique a gardé en mémoire trois grandes catégories de hadith. Une catégorie considérée comme saint, S-A-I-M-S, c'est-à-dire des hadiths dont la chaîne de transmission est à peu près complète, ou qui comportent plusieurs chaînes de transmission différentes. Les Bukhari et Muslim ont pris, se sont consacrés uniquement à ces hadiths-là. Une deuxième catégorie est celle des hadiths bon, simplement bon, Hassan, c'est-à-dire il y a des chaînes de transmission qui ne sont pas toujours complètes, mais enfin bon, on a de bonnes raisons de penser que le texte en question a bel et bien été prononcé par le prophète. C'est une catégorie très importante parce que par exemple le droit musulman se fonde en bonne partie sur des hadiths qui sont bons. Et enfin, il y a des hadiths qui sont jugés faibles parce que les chaînes ne sont pas fiables, sont trop peu nombreuses. Mais, comme vous remarquerez, on a quand même gardé le souvenir de ces hadiths faibles. On ne les a pas purement et simplement jetés, parce qu'on se dit qu'après tout, peut-être que le prophète aurait quand même pu les prononcer. Il y a un hadith rapporté par Ibn Hanbal qui dit « Les bonnes paroles, c'est moi qui les ai dites. » C'est-à-dire que bon, même si le prophète ne les a pas dites verbatim, au fond, ça reflète quand même l'esprit de sa sunna. Voilà, donc cette science de hadith a permis d'établir un corpus qui est le deuxième corpus après le Coran. Et j'insiste dessus, vraiment, le corpus de hadith, au fond, c'est ça qui est la clé de voûte de la question de la réforme de l'islam contemporain. Tous les musulmans sont d'accord et seront d'accord sur suivre le Coran, mais tout ce qui a trait aux réformes de la condition féminine, de la pluralité, tout ça, on retrouve surtout les hadiths. Surtout les hadiths. Beaucoup, enfin, c'est pas tellement le Coran qui est en jeu. Toutes ces questions sur le voile, l'habillement, les rapports aux non-musulmans, tout ça, on retrouve surtout la question se trouve dans l'appréciation, disons, qu'on a des hadiths. Alors, parmi les sciences d'interprétation, l'application, il y en a de nombreuses, bien sûr. Je ne veux pas m'attarder sur la philologie, sur l'histoire. Je voudrais dire quand même un mot particulier sur l'importance de la science du droit. C'est une chose que souvent en Europe et en climat chrétien, on saisit mal, c'est que en islam, la question n'est pas de spéculer sur Dieu. Dieu est en lui-même complètement inconnaissable, il est complètement transcendant. Tout ce qu'on peut dire de Dieu, c'est ce qu'il dit de lui-même, bon, hein. Mais ce n'est pas ça. La question n'est pas d'essayer de percevoir les mystères de la nature divine. Si Dieu s'est révélé à travers le Coran, ce n'est pas pour être connu, mais c'est pour être adoré et c'est pour être obéi. Ce qui importe, c'est le culte et c'est la loi. Donc, ce qui est absolument essentiel, c'est de savoir, pour le musulman croyant, qu'est-ce que je dois faire. C'est pas tellement qu'est-ce que je dois croire, parce que je dis au début, bon, finalement, l'essentiel du dogme, les musulmans sont d'accord dessus, mais qu'est-ce que je dois faire. En d'autres termes, la discipline principale, c'est le droit. Lorsque les étudiants font des sciences religieuses, dans les pays islamiques, la science religieuse comporte le hadith qui sont pour aboutir principalement au droit. Ces facultés forment d'abord et avant tout des juristes. Autant en climat chrétien, la science par excellence c'est la théologie, autant en climat musulman, la science par excellence c'est le droit religieux. L'évolution de ce droit religieux ne s'est pas faite comme ça d'un seul coup. Là aussi, il y a une évolution qui, il faut quand même noter, bien que les universitaires ne soient pas tous d'accord là-dessus. Quand l'Empire musulman s'est créé à l'époque Omeyyade, les califes ont envoyé dans les grandes métropoles des gens disant « Bon, toi tu seras juge, tu seras ravi, tu seras juge là, tu seras là, tu seras là. » Mais à cette époque, il n'y avait pas de cursus juridique. On a envoyé des gens qui n'avaient pas de formation. Donc ce sont des juges qui ont, dans les quatre coins de l'Empire, rendu la justice sur le tas. Et comment l'ont-ils fait? Là, il y a eu deux orientations possibles, en quelque sorte. Il y a une partie des juges qui ont dit « Bon, bah, on applique ce que dit le Coran et ce qu'on sait de la tradition prophétique. Et tout ce qui n'est pas dans le Coran et dans la tradition prophétique, bah, c'est une zone neutre. On décide en fonction de ce que nous pensons bon. C'est une part, donc c'est toute une aide, disons, à l'être libéral, en disant la religion, on cantonne la religion essentiellement dans le culte et quelques prescriptions. Mais il y avait une autre tradition, plus ancrée à Médine, qui disait quand on se trouve devant des problèmes et qu'on ne sait pas quoi faire par rapport à cette zone neutre, il faut absolument essayer de combler cette zone neutre. De savoir ce qu'un bon musulman doit faire. Cette zone neutre a été progressivement occupée par les prescriptions disant voilà, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est blâmable, ça c'est louable. Et c'est cette deuxième tendance qui finalement l'a emporté à savoir essayer de faire en sorte que le droit, le droit religieux envahisse, gagne la plus grande partie de la vie de chaque croyant pour éviter que l'opinion personnelle qui obéit à la passion, qui obéit aux pulsions, tout ça, interviennent au minimum. Donc toute cette évolution du droit a fini par aboutir à ce qui est devenu, donc là aussi au 9e siècle, le droit musulman, qui se décline dans plusieurs écoles, quatre écoles qui sont restées jusqu'à nos jours. Et toutes professent en gros, qui professent en gros les critères suivants. Face à n'importe quelle question juridique, on cherche à savoir ce que dit le Coran. Si le Coran n'en parle pas, on cherche à savoir ce qu'en dit le Hadith. Et l'absence d'affirmation coranique du Hadith fait que l'autorité de loi. Mais les Hadiths ne sont pas non plus tellement nombreux. Il y a peut-être 4000 Hadiths qui traitent des questions juridiques. Donc on applique un troisième critère éventuellement qui est un critère analogique. Si on se trouve face à une question dont on ne sait pas quoi faire, on va essayer de voir s'il n'y a pas une référence analogue dans le Coran ou dans le Hadith. Par exemple, en occupant l'Iran, les tribunaux musulmans ont vu que les Iraniens consommaient beaucoup d'une drogue légère, ils appelaient le Bach, et se sont dit est-ce que le Bach les cite ou non. Et finalement, par analogie avec l'interdiction de l'alcool qui figure dans le Coran, ils ont affirmé que le Bach, et donc les autres drogues aussi, étaient illicites. Donc, raisonnement par analogie. Et enfin, c'est peut-être le plus important, un critère qui permet d'entériner l'ensemble des décisions juridiques, c'est le consensus, l'ijma. C'est-à-dire que si les sceptiques, des savants d'une génération sont d'accord pour résoudre une question juridique de telle façon, on considère que cette solution est juste, et cela en fonction d'un hadith qui dit ma communauté ne tombera jamais d'accord sur une erreur. C'est-à-dire que la communauté musulmane dans son ensemble est dotée d'une espèce d'infaillibilité. C'est quelque chose d'absolument fondamental, parce que c'est comme ça que le sunnisme s'est construit. Dans le Coran, il n'est pas qu'est-ce que le Coran ne dit pas, obéissez au hadith. Mais par contre, c'est le consensus qui a dit que la parole du prophète vaut en matière de droit. Donc, dans cette société musulmane qui a manifesté une telle souplesse plastique, on voit que, au fond, c'est la communauté qui ratifie les grandes décisions, mais il n'y a pas de consigne, il n'y a pas de synode pour décider de ça. Ça se passe comme ça, au fil des siècles. C'est à la fois très souple et en même temps très lent. Et à l'heure actuelle, nous nous trouvons aussi dans une période de consensus et remise en action, en quelque sorte. Avant, au Moyen-Âge, les savants musulmans étaient assez peu nombreux, et donc ils pouvaient discuter assez facilement entre eux pour savoir quelle décision prendre. Mais à l'heure actuelle, il y a des millions et des millions de musulmans qui ont étudié à l'université, qui prennent la parole, soit c'est accéléré par Internet, et chacun peut donner son avis. Donc on voit que le consensus est remis en cause, accéléré abouti à un bouillonnement intellectuel qui, pour l'instant, est tout à fait effervescent. Et il n'a pas encore trouvé de solution stable. Voilà, j'espère que ça. Enfin, je termine alors par la.
Oui. 5 minutes pour.
D'accord. Pour laisser la place aux questions.
Oui, chacun.
D'accord. Donc, il y a. On peut dire, nous avons vu plusieurs voies pour interpréter le Coran. Une voie traditionnelle par le hadith, on s'appuie sur la tradition du prophète. Une voie rationnelle par la théologie, par le raisonnement, c'est ce que le professeur Jean-Pierre dit. Mais il y a une autre façon d'interpréter, et c'est par dévoiler le Coran, enfin comprendre le Coran par dévoiler. C'est toute la dimension mystique de l'islam.
Le dévoilement
intérieur. C'est la dimension mystique de l'islam. Les mystiques, dont la plupart sont à partir de confréries soufis, les mystiques, quelle est la différence avec les musulmans ordinaires? C'est qu'au fond, pour le musulman ordinaire, il s'agit d'appliquer la loi, d'obéir, d'accomplir le culte, afin d'être récompensé dans le au paradis, et là, éventuellement, au paradis, rencontrer Dieu. Là, c'est dit dans le corps. Pour les soufis, il est possible, non seulement il faut accomplir bien sûr le culte, mais il est possible de rencontrer Dieu dès ici-bas. Avant la mort physique, les humains peuvent avoir une expérience du divin. Alors je vous passe l'évolution historique qui s'est passée, comment des musulmans des premiers siècles, un peu déçus par le côté enrichissement et un peu matérialiste des élites et des lettrés, s'est adonné à la cèse et a développé une magnifique littérature lyrique pour expliquer le bonheur de se rapprocher de Dieu, le bonheur d'aimer Dieu, le bonheur d'être anéanti en Dieu. C'est avec le 8e siècle déjà que la célèbre mystique Rabera qui parlait de l'amour de Dieu, ces thèmes ont surgi. Alors il y a eu des lettrés qui étaient tout à fait scandalisés, il y a eu un procès qui a eu lieu en 875 où un juriste a dit mais ces gens-là professent l'amour de Dieu, ils disent que Dieu les aime et qu'ils aiment Dieu. Or, c'est complètement absurde. L'amour suppose un manque. L'amour, pour qu'on puisse aimer quelqu'un, c'est parce qu'on est soi-même en état imparfait, en état de manque, et qu'on a besoin des autres. Or, Dieu est parfait, donc Dieu ne peut pas aimer autre que lui-même. Et comment est-ce qu'un homme minuscule et imparfait pourrait-il aimer Dieu immense et infini? Donc, le procès a eu lieu, et finalement, après le débat, les soufis ont été acquittés. Les mystiques ont été acquittés après argumentation sur des bases coraniques. Les mystiques se sont regroupés en confréries discrètes, pas secrètes, mais discrètes, parce qu'en effet, il y a toujours un soupçon qui pesait sur elles. À partir du moment où un mystique dit qu'il a rencontré une présence divine, qu'il a été anéanti en Dieu, qu'il a été uni en Dieu, est-ce qu'il n'y a pas là un danger, finalement, de mettre en cause tout l'édifice conceptuel de l'islam? Tout l'édifice conceptuel de l'islam tient sur l'expérience de Mohammed, qui lui seul a rencontré l'ange, lui seul a délivré la volonté divine. Si maintenant il y a des mystiques qui disent « moi, j'ai rencontré Dieu, je suis uni à Dieu », est-ce que ce n'est pas une façon de court-circuiter en quelque sorte l'édifice islamique? Alors ils s'en sont défendus bien sûr, les soufis ont toujours été des gens extrêmement pieux et qui n'ont jamais mis en cause l'orthodoxie elle-même. Comme c'était très souvent des gens qui vivaient dans une grande piété, une grande pureté, ils ont été l'objet d'une vénération immense auprès du petit peuple. Et il faut souligner, cela en conclusion, disons que ce qu'on appelle mystique en islam n'est pas du tout un courant marginal. Quand on est climat chrétien, on pense aux mystiques, on pense à des moines, des ermites qui sont un peu isolés dans des ermitages, dans des couvents. Chez les soufis, ce n'est pas du tout, ce sont des laïcs, ce sont des, comme tout le monde en islam, qui ont du professionnel, une famille, mais qui aussi se regroupent en confrérie et peuvent, autour de maîtres spirituels, peuvent être extrêmement nombreux. On a un exemple statistique, en général c'est un peu difficile à établir, mais en Égypte, qui est un pays très assez bureaucratique, toutes les confréries sont inscrites à un ministère, et le ministère, à l'époque où il y avait 60 millions d'Égyptiens, a recensé 6 millions d'adhérents aux confréries. Ce qui est énorme, ce qui est énorme, 6 millions de soufis, en comptant que seuls étaient répertoriés les hommes, alors que bien sûr, il y a énormément les 60 millions d'Égyptiens ne décompteront pas les Coptes non plus. Donc si on fait le décompte de tout, ça veut dire qu'il y a peut-être un Égyptien sur quatre qui a une recherche d'ordre mystique. Donc on peut dire que véritablement, la mystique constitue une des grandes virtualités de la spiritualité musulmane, véritablement. Alors, il n'y a pas lieu ici de raconter donc les œuvres littéraires, intellectuelles, qui fait que le soufisme a fécondé tout le tissu islamique depuis 12 siècles, mais simplement que maintenant, l'enjeu est devenu très politique. L'enjeu est devenu très politique parce que les maîtres soufis, ayant souvent beaucoup de prestige, sont considérés parfois comme des gens suspects, notamment par le courant wahhabite. Et le courant wahhabite, propulsé par son succès en Arabie, un de ses fers de lance, c'est la lutte contre la mystique. Il considère une hérésie inacceptable par l'islam, que l'islam des origines ne comportait pas d'unité mystique, que c'est une innovation et qu'il faut absolument combattre, supprimer cette tendance-là à l'intérieur de l'islam. Donc le soufisme actuellement est très combattu par les wahhabites, mais aussi par les laïcs, mais aussi par le marxisme. Mais malgré tout, il continue à vivre et il continue, je pense, à féconder son milieu.